Type à beaucoup de citoyens qui passent par mon compte Facebook, par mon blog, par SMS ou par email, c'est que c'est des informations importantes. La loi est sortie depuis longtemps et presque la majorité des citoyens lambda n'en sont pas informés. Donc c'est toujours le problème de la vulgarisation de l'information. Et quand ce genre d'information sort et communiqué le 21, c'est-à-dire à 4 jours des élections, il y a une suspicion légitime qui s'empare de la population. Donc ce soir, depuis en attendant cette émission, j'étais obligé de calmer certaines personnes pour dire il y a une disposition juridique. Et je suis en train d'envoyer des milliers de mails aux uns aux autres pour leur dire de se calmer que effectivement la loi existe. Mais le problème que ça pose cette loi sur la carte nationale d'identité qui permet de voter, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez un journal de Côte d'Ivoire qui s'appelle L'éléphant déchaîné, qui avait en son temps fait une investigation sur des fausseurs de cartes d'identité qui séviraient à Abidjan. Donc, la carte d'identité n'ayant pas subi, je dirais, le même processus que la carte d'électeur, il va sans dire que, en termes de crédibilité, il va falloir encore, je dirais, informer, rassurer pour que l'opposition et ou certains électeurs ou certains groupes sociaux qui ont des intérêts dans ces élections puissent se calmer. Donc, Eric, voilà un peu ce que je peux dire sur cette autorisation, ce communiqué du 21 octobre de la CEI.
Monsieur Christophe, une dernière question. Je sais que vous avez d'autres obligations. On doit vous libérer dans un instant. Le président sortant, Alassane Ouattara, a annoncé aujourd'hui son intention de changer la constitution dès l'année prochaine. Il a déclaré, je cite, « Nous aurons une nouvelle constitution dès l'année prochaine que je soumettrai au verdict de mes concitoyens. Nous ferons un référendum et ceci permettra d'enlever tous les germes conflictogènes de l'actuelle constitution. » Ouattara semble se comporter comme déjà vainqueur avant le scrutin de dimanche. Votre commentaire, Christophe, est-ce qu'il met la charrue avant les bœufs?
Non, il est donné favori dans la communauté nationale internationale. Toutes les émissions que nous avons eu l'occasion dans le cadre du monitoring de ces élections à suivre, toutes ces émissions le donnent favori. Donc, en plus, c'est normal aussi de prendre le leadership et puis d'essayer d'influencer le camp adverse. C'est de bonne guerre. Mais moi, sincèrement, si j'ai quelque chose à dire là-dessus, je prierai le président Ouattara qu'il fasse l'ouverture audiovisuelle. L'ouverture audiovisuelle qui va permettre une participation citoyenne, qui va baisser le ton, je dirais, entre les citoyens et pouvoir permettre une diversité de discussions et d'origine de la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, qui est là, on est surnommé avant les petits États-Unis d'Afrique. Parce que vous savez que dans le temps, sous Foubaï, on était à 26% d'étrangers. Aujourd'hui, les statistiques ne sont pas disponibles, mais les derniers que j'ai vus ne sont pas loin des 30%. Donc pour moi, la Constitution, l'article 35 confligène qui rendait M. Ouattara inéligible, à partir du moment où il a été élu deux fois, il n'y a plus d'urgence. L'urgence, c'est pour le futur. L'urgence, c'est pour le citoyen. L'urgence, c'est pour la participation citoyenne. L'urgence, c'est pour la réconciliation nationale. L'urgence, c'est pour la cohésion sociale. L'urgence, c'est pour la création de la nation ivoirienne. Donc, voilà un peu ce que moi, je peux dire sur ce commentaire, sur l'affirmation du président candidat Alassane Ouattara.
Est-ce que vous pensez que c'est, disons, une déclaration qui pourrait mobiliser une partie d'électeurs qui se désistent à aller voter?
Non, les électeurs ivoiriens, pour ce que je reçois comme mail, SMS ou Messenger sur Facebook où je suis régulièrement interpellé, les Ivoiriens sont fatigués. Et de l'autre côté, les gouvernants, par cycle, je veux dire depuis 1993 à ce jour, nos gouvernants se satisfont eux-mêmes, je dirais, de leur lèche-botte. Le gouvernement, c'est un peu comme le miroir aux alouettes. Les gouvernants sont satisfaits et les Ivoiriens sont dans la pauvreté qui, selon les derniers chiffres, est à 46%. Donc la démotivation des Ivoiriens, en tout cas de la majorité avec qui j'échange dans le cadre de nos observations de la politique ivoirienne, les Ivoiriens voient bien les chiffres de la croissance et ne voient rien dans leurs assiettes. Les Ivoiriens ont vu 2010 avec la crise post-électorale et aujourd'hui, les Ivoiriens se disent, quoi que nous fassions, nous avons eu les 4 ans, nous n'avons pas eu un seul mot à dire. Il y a eu beaucoup de réformes, il y a eu beaucoup de politiques publiques, mais est-ce que réellement, si on prend la phrase de Nelson Mandela qui dit « Vous voulez notre bonheur pour nous ?» mais sans nous associer, c'est comme si vous le faites contre nous. C'est exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous avez un gouvernement qui est enfermé, qui est renfermé, qui ne voit pas l'environnement social de l'évolution du citoyen lambda. Et donc, c'était presque prévisible que les citoyens n'allaient pas se mobiliser. Et c'est au dernier moment que le gouvernement découvre. Vous avez vu la précipitation avec laquelle on a augmenté le nombre de jours, la précipitation avec laquelle on fait l'amateurisme avec lequel on fait un communiqué le 21 octobre pour atteindre le 25. Mais la société civile a toujours fait des déclarations, informé le gouvernement, mais non. Aujourd'hui, je conclue en disant que les citoyens ivoiriens ont des préoccupations que les gouvernants n'ont pas vu venir. Donc, je ne pense pas qu'on puisse mobiliser un peuple qui sort d'une crise depuis 4 ans en 4 jours.
Mmh. Merci, Monsieur Christophe. Une petite, la toute dernière question. Le boycott envisagé par les trois pointures de l'opposition, est-ce une erreur ou la mouvance qui n'a pas, disons, répondu aux préoccupations de l'opposition et qui a maintenu le scrutin le dimanche, est-ce qu'aller aux élections le dimanche, s'agit-il d'une erreur?
Non, ce n'est pas une erreur. Vous savez, l'opposition ivoirienne n'a pas proposé d'alternative globalement. L'opposition ivoirienne s'est un peu émiettée et c'est sur le tas que l'opposition s'est organisée. L'opposition ivoirienne a laissé le processus électoral passer. À chaque étape, il y avait la première étape de l'élection, de la formation de la CEI, l'opposition a un peu manifesté. Dès qu'elle a eu une ou deux places, elle s'est tue. Elle a laissé passer. De même pour le code électoral et enfin la liste électorale. Donc pour moi, il y a deux possibilités. Soit on est responsable et tout de suite, on n'y va pas. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien moyen ne peut pas décrypter, je dirais, les mots d'ordre d'appel au boycott. Parce que ça a été un peu comme si on tanguait, on faisait 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Donc, les gens n'arrivent pas vraiment à décrypter les enjeux du boycott. Les gens, ils ont décidé eux-mêmes, personnellement, pour la majorité, de ne pas aller retirer leur carte. Parce que pour eux, l'élection ne servait à rien. Il y a eu même des personnes, peut-être une dizaine de personnes, qui m'ont même envoyé des mails pour dire, dès qu'on vous donne la parole, demandez à ce que la communauté internationale interdise qu'on aille aux élections, parce qu'en fait, il va gagner. Donc, économisons les 10 milliards, achetons, construisons un hôpital peut-être pour nous. Vous voyez, donc déjà, les citoyens avaient déjà pris position. Maintenant, l'opposition, quand j'analyse que c'est à 1 mois ou à 2 semaines qu'on veut marcher, qu'on réclame de s'asseoir avec le président de la République, personnellement, je pense que c'est de l'irresponsabilité. Maintenant, quand vous avez en face un président de la République, il doit jouer son rôle de chef, il doit jouer son rôle de leader. Il doit mettre en œuvre son leadership pour réduire à zéro, ne serait-ce que les 1% de risque que le boycott, la marche qui était prévue pour jeudi, je crois qu'on est jeudi aujourd'hui, hein. Voilà, la marche qui était prévue ne puisse pas se faire. Donc, pour moi, de part et d'autre, je pense que la classe politique dans son entièreté a échoué collectivement, je dis bien collectivement, à se mettre d'accord. Est-ce que c'est la Constitution qui nous conduit pour que nous conduisons ce pays? Est-ce que c'est le droit qui nous conduit pour que nous conduisons ce pays? Est-ce que c'est la coutume qui nous conduit ou la gérontocratie? Bref, il faut absolument pour le futur, parce que dimanche c'est demain, il faut absolument pour le futur qu'on se mette tous d'accord. Ce que les anglo-saxons disent, le shared understanding, la compréhension commune de la nation ivoirienne doit se faire. Il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'il y ait un consensus pour qu'on trace un sillon, une vision commune pour la Côte d'Ivoire. Sans cela, cher ami Eric, on restera dans la tergiversation jusqu'à ne point finir.
Merci beaucoup, Monsieur Christophe, pour Vos commentaires, nous avons quelqu'un de l'opposition, c'est Monsieur Kame Kame qui est déjà en ligne et qui vous a suivi. Mais on va d'abord prendre notre envoyé spécial sur le terrain, c'est Tatiana Mosso, parce que on doit aussi la libérer d'ici peu et doit continuer à suivre la situation, à nous envoyer des informations. Tatiana, voudriez-vous nous décrire l'ambiance à Abidjan, la situation électorale avant dimanche?
Vous savez qu'il reste aux 8 candidats un peu moins de 48 heures pour essayer de convaincre encore les électeurs de se mobiliser vers les urnes. On a donc ces dernières 48 heures des meetings qui sont organisés, notamment à Finguessan du FPI qui se trouve au nord, dans le nord du pays. Il est en région, il a décidé de terminer, de clore sa campagne électorale en dehors d'Abidjan. Traditionnellement, les grands meetings de fin de campagne sont organisés dans la capitale. Ce sera le cas au moins demain pour Alassane Ouattara qui a décidé, lui, d'organiser un grand meeting demain dans le quartier du Plateau, en centre-ville d'Abidjan. De leur côté, les candidats indépendants, eux, n'avaient pas réellement organisé de meeting à proprement parler, mais plutôt des conférences de presse un petit peu à droite et à gauche. L'un de vos invités l'a mentionné tout à l'heure, aujourd'hui était prévue une marche de plusieurs alliances de l'opposition. Une marche qui a été interdite. Il faut savoir ici que les esprits sont un peu confus entre à la fois les manifestations politiques et la campagne qui se déroule. Il y a un petit peu un mélange des genres. Une chose est certaine, c'est que quand on circule dans les rues d'Abidjan et qu'on discute un petit peu, notamment avec la jeunesse, eh bien ils sont un peu perdus, ils sont un peu indécis. La seule chose qu'ils ne veulent pas revivre, ce sont bien évidemment les événements de 2010-2011. Et pour cela, même si vous leur dites, écoutez, voter peut vous rendre acteur de l'avenir de votre pays. Ils n'y croient pas, ils ont du mal à y croire en tout cas. Et ce qui peut expliquer ce traumatisme de 2010-2011 peut expliquer pourquoi aujourd'hui il n'y a pas un grand enthousiasme, du moins pour se rendre aux urnes. Alors évidemment, dimanche, les urnes parleront et surtout elles vont redéfinir, je pense, la carte du paysage politique ivoirien.
Oui, évidemment, le scrutin va définir la carte, mais on n'aura pas, disons, des références bien fixes avec ce boycott et ce désistement. Tatiana, il y a eu un communiqué de l'ancien président Laurent Gbagbo depuis sa cellule à La Haye. Il n'endosse aucune candidature. Est-ce que ça a des effets sur les électeurs en Côte d'Ivoire?
Alors écoutez, il y a une chose qui est certaine, c'est que, on va dire, l'esprit de Laurent Gbagbo, l'esprit qu'incarnait l'ancien président, n'est pas mort, puisqu'il y a encore des partisans qui lui sont fidèles et qui l'ont toujours été depuis la fin des élections il y a 5 ans. Une frange du FPI qui, selon certaines personnes, représente la majorité du FPI, sont encore très confiants, restent dans la lignée de on va dire, dans l'héritage de Laurent Gbagbo, bien que celui-ci n'ait jamais donné de consigne de vote, ni même des proches de son entourage, comme par exemple l'ex-première dame, Madame Simone Gbagbo, aucun d'eux ne s'est officiellement exprimé pour un candidat ou un autre. On sait que le FPI est divisé aujourd'hui. Aujourd'hui, il est représenté par Affine Guessant, mais de là à dire que c'est tout le FPI, non, et il y a encore des résistants. Alors maintenant, est-ce que c'est utopique de penser, quand ils nous disent que Laurent Gbagbo, il réclame le retour de Laurent Gbagbo, ça semble un petit peu utopique, mais une chose est sérieuse, et il faut la prendre vraiment au sérieux, et c'est en ça que les urnes parleront dimanche, c'est de savoir jusqu'à quel point ces électeurs représentent encore, quel est le pourcentage de ces électeurs demain aux urnes. Ils feront partie certainement du boycott, ils feront partie de cette frange de la population qu'il faudra prendre en compte une fois que les résultats des urnes sortiront.
Oui, Tatiana, vous êtes à Abidjan, vous vous êtes entretenue sans doute avec beaucoup d'eau courante, etc. Est-ce que le fait que le FPI est divisé et qu'il y a une partie qui est restée dans la course, est-ce que Lorsque vous essayez de sonder les gens, quelle est la partie qui regorge le plus de soutien au sein du FPI lui-même?
Alors justement, c'est en ça qu'aujourd'hui ça reste un mystère et personne ne peut clairement dire à quel point le FPI est divisé au niveau du pourcentage. On peut faire uniquement des théories, mais c'est en ça justement que le vote de dimanche sera important. Ce sera de voir quelle est la quantité d'électeurs du FPI dur, du noyau dur du FPI, qui aura été voté ou non, ou qui aura maintenu le boycott. Et il sera aussi intéressant de voir quel score va réaliser à Finguesson. C'est à partir de là qu'on pourra déterminer justement à quel niveau se trouve le FPI aujourd'hui, qui est quand même l'un des principales partis de l'opposition dans l'histoire de la politique ivoirienne.
Mmh. Le camp Ouattara estime qu'il va gagner dès le premier tour, mais il craint, disons, un faible taux de participation. Pourquoi ? Pourquoi ils craignent ?
Alors écoutez, je ne pense pas que ce soit uniquement le camp d'Alassane Ouattara, le RHDP ou le RDR, si on veut redécouper encore. Je ne pense pas qu'ils soient les seuls à craindre ce faible taux de participation. Je pense que tous les observateurs ici qui vont vers ces élections avec quand même une certaine appréhension, hein, il faut le voir ici, les Ivoiriens sont inquiets, sont angoissés. Évidemment parce qu'ils ne veulent pas revivre la crise de 2010-2011, mais aussi parce qu'ils voient bien qu'il y a des vrais blocages, notamment on parle encore de la réconciliation, cette question qui n'a jamais été aboutie, cette problématique qui n'a pas été... ce processus de la réconciliation qui n'a pas été jusqu'au bout, et ce sera peut-être là encore l'un des gros dossiers pour le mandat à venir, quel que soit celui qui sera élu à la tête du pays, il devra avant tout réconcilier les Ivoiriens. Donc le camp d'Alassane Ouattara est confiant, certes. La participation, est-ce qu'elle l'empêchera, comme ils disent, de gagner dès le premier tour, ça reste des pronostics, ça reste des théories, mais une chose est sûre, c'est que cela inquiète cela inquiète les observateurs en général, car évidemment on se souvient des scores, 80% de participation lors du premier tour en 2010, ce qui était une participation record. Alors est-ce que les Ivoiriens se désintéressent de la politique dans leur pays? Il faut quand même savoir que les Ivoiriens sont passionnés de politique en général. Est-ce qu'ils sont dépassionnés? Est-ce qu'ils sont moins intéressés? Je ne pense pas. Je pense que les gens ont peur et appréhendent de voir ce qui va se passer, plus l'envie de ne pas être acteur de l'histoire de leur pays.
Est-ce que le communiqué de la commission électorale indépendante a changé quelque chose sur la position de départ des électeurs qui se délaissent, qui se désistent?
Alors c'est un communiqué qui est apparu ici un petit peu en fin de journée, donc il faudra attendre demain pour voir les premières réactions. Une chose est sûre, je pense, c'est que les différentes personnes auxquelles nous avons pu déjà parler vous disent qu'elles sont assez engagées dans leurs décisions, c'est-à-dire que ceux qui ont décidé de boycotter restent fermes sur cette position-là, et tout le monde se regarde un petit peu en chien de faïence, ils attendent de savoir qui fera le premier mouvement. Chacun reste sur ses positions. Et par rapport au vote de dimanche, c'est vraiment dimanche, et c'est en ça que ce vote sera très important et indiquera un petit peu où en est la politique ivoirienne, où en sont les Ivoiriens dans leur état d'esprit. Et je pense qu'il faudra tenir compte du vote et à la fois des abstentions de dimanche pour se rendre compte si toutes les méthodes, y compris de pouvoir voter avec la carte d'identité, auront réellement porté leurs fruits.
Oui, Tatiana, avant de vous libérer, que peut-on retenir des projets politiques des candidats? Est-ce que ce sont des projets qui intéressent les électeurs?
Écoutez, ce qui intéresse les électeurs aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont finir la fin du mois, comment est-ce qu'ils peuvent payer leurs factures, est-ce qu'ils ont la santé, est-ce qu'ils ont l'eau, est-ce qu'ils ont la scolarité. Ce sont vraiment les projets sociaux. Alors oui, quand on leur parle du bilan d'Alassane Ouattara, ils sont unanimes, en tout cas sur les infrastructures. Maintenant, il y a des questions qui restent primordiales, comme l'emploi, pour la jeunesse. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire compte au moins 60% de sa population qui est jeune, et notamment dans cette jeunesse, il y a de jeunes diplômés qui attendent du travail.